RCI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Le département du Puy-de-Dôme, ce sont des étendues verdoyantes, de nombreux châteaux, des étapes mythiques du Tour de France et surtout un volcan qui porte le même nom situé à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Ce volcan, aujourd'hui éteint, est apparu il y a plus de 11 000 ans. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est l'un des sites les plus visités en France. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir ce volcan et ses environs autrement. Je vous propose une balade minérale, à la découverte de pierres extraordinaires nées de la colère de ce géant. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi ces pierres sont aussi précieuses que des émeraudes. Je m'appelle Christophe Noiseux. Je suis animateur à Ici Pays d'Auvergne. Et j'adore le Puy-de-Dôme. Je m'y promène régulièrement, plusieurs fois par an, en toute saison, sur les nombreux volcans de la chaîne des Puys. Ce territoire offre des paysages uniques, des ambiances surprenantes, végétales et minérales aussi. Ça me pousse à méditer et à prendre le temps. C'est une grande bouffée d'air. Bienvenue dans Partir. Puy-de-Dôme, un volcan et des pierres extraordinaires. Notre point de départ, c'est le sommet du Puy-de-Dôme à 1465 mètres d'altitude. Dès qu'on arrive, on aperçoit un vaste bâtiment rectangulaire et son antenne de 73 mètres de haut. C'est l'antenne des ondes télé et radio diffusées sur l'Auvergne. Elle se voit très loin. Juste à côté, on trouve une construction en bois dédiée à la science, un observatoire. Sur sa terrasse, quatre cheminées aspirent les nuages pour découvrir leur composition. Mais ce sommet, c'est aussi un belvédère. En faisant le tour, on peut observer plusieurs volcans, des prairies, des vestiges volcaniques. Tant que j'y pense, mon premier conseil pour accéder au sommet du Puy-de-Dôme, c'est de le faire à pied. Comptez au moins 2 heures si vous voulez prendre le temps et profiter du paysage via le chemin des chèvres. On le commence depuis la maison de site située au pied du Puy-de-Dôme. On peut aussi emprunter le chemin des muletiers, plus court, mais beaucoup plus physique, avec un dénivelé important. Mais si la marche n'est pas votre fort, ce n'est pas un problème. Il existe un train à crémaillère, le panoramique des dômes. Il permet de monter en douceur et de profiter de très beaux paysages durant l'ascension. On le prend aussi au niveau de la maison de site, au pied du Puy-de-Dôme. Sincèrement, toutes les saisons se valent pour profiter pleinement du sommet du Puy-de-Dôme. Au printemps, j'adore admirer les différentes nuances de vert du paysage. À l'automne et en hiver, quand il fait gris, on peut tomber sur des mers de nuages. En hiver aussi, on est parfois surpris par des sculptures naturelles de glace. En tout cas, peu importe la saison. Ce que je préfère, c'est venir ici juste avant le lever ou le coucher du soleil. En général, je prends du fromage et de la charcuterie dans mon sac. C'est idéal après l'effort et je me pose pour observer les rayons du soleil. Ces couleurs se projettent dans toutes les directions et je trouve ça magnifique. La lumière du matin et du soir éclaire un autre bâtiment construit au sommet du volcan. Un ensemble très ancien cette fois. C'est le temple de Mercure. Mercure des Dômes, protecteur des voyageurs et des commerçants. C'est le plus grand sanctuaire gallo-romain de montagne. Ce vaste ensemble de près de 3600 m² a été construit en basalte. C'est une pierre de lave issue de l'activité volcanique de la chaîne des Puys. Dans le secteur, elle est assez abondante. C'est d'ailleurs cette pierre qui a été utilisée pour la construction de la cathédrale de Clermont-Ferrand. La première pierre a été posée en 1248. Et du sommet du Puy-de-Dôme, on voit parfois ces deux flèches émerger de la brume. C'est étonnant parce qu'on dirait que le temple de Mercure a toujours fait partie du sommet du Puy-de-Dôme. En réalité, ce que l'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est le résultat de 150 ans de fouilles et de travaux de restauration. Le temple est sorti de l'oubli au 19e siècle. Des travaux avaient été lancés pour la construction d'une station météorologique. Sans ce projet, le temple serait peut-être toujours sous terre. Enfin, sous lave. Avant de vous rendre au sommet du Puy-de-Dôme, je vous suggère de jeter un œil à l'une des webcams qui partagent en temps réel les images du sommet. On les trouve sur le site internet du panoramique des dômes, le train à crémaillère. C'est très pratique en toute saison pour savoir si ça vaut le coup de monter. Car parfois en plaine, le temps est brumeux, mais en haut, c'est parfaitement dégagé. Et puis l'hiver, le temps change très vite. Le vent peut souffler violemment et faire baisser considérablement les températures. Donc mieux vaut le savoir avant d'emprunter les deux sentiers de randonnée du site. Je vous ai promis de vous faire découvrir un lieu étonnant qui ne figure dans aucun guide. Pour s'y rendre, il faut quitter le sommet du Puy-de-Dôme et prendre la direction de la commune de Volvic. Nous allons emprunter les chemins de traverse pour découvrir un site géologique inspirant, insolite. On est donc à une demi-heure en voiture du Puy-de-Dôme, au Puy de la Nugère, dans une ancienne carrière de pouzzolane à ciel ouvert. La pouzzolane, c'est une pierre issue de la projection de lave. Après des dizaines d'années d'exploitation, la carrière a fermé il y a quelques années. On y accède aujourd'hui librement. Cette carrière est monumentale. C'est un genre d'immense amphithéâtre composé de pierres grises, noires et rouges. Son autre particularité, c'est qu'elle est entourée de hêtres, d'épicéas et de sapins. En automne, on se croirait presque dans une forêt canadienne. Comme il n'y a pas de panneau pour trouver la carrière, le mieux est de se rendre à la gare de Volvic. Puis en sortant de la gare, à pied, prendre la direction du nord. Continuer de marcher jusqu'à une scierie, et à gauche, prendre le chemin qui y mène. Avant de vous emmener plus loin, j'ai un autre conseil. Je vous recommande d'aller découvrir la carrière avec de bonnes chaussures. Ce n'est pas spécialement difficile d'y accéder, la balade peut se faire sans problème en famille. Mais pour marcher dans la carrière, mieux vaut éviter les tongs et préférer des chaussures qui maintiennent bien les chevilles. Surtout pour les enfants, car c'est un super terrain de jeu. Ils auront envie de sauter partout. Ce que j'aime dans cette carrière, c'est qu'on imagine la force de la terre sous nos pas. En plusieurs dizaines de milliers d'années, la roche en fusion et ses coulées de lave ont laissé des traces encore bien visibles. Mais le végétal s'invite aussi dans le minéral. On croise des bouleaux et une multitude de mousses et de lichens. C'est étonnant car l'ambiance est apaisante et pourtant le paysage rappelle aussi des décors de science-fiction. On se croirait presque sur la Lune ou sur Mars. Thierry Courtadon est un artiste sculpteur qui a grandi au pied du Puy de la Nugère. Il est amoureux de la pierre. Ses œuvres qu'il exporte dans le monde entier sont uniques. Elles sont parfois ciselées comme de la dentelle. Les lettres monumentales de Vulcania à l'entrée du parc, c'est lui. Le grand bibendum Michelin sculpté en basalte devant le siège de l'entreprise à Clermont-Ferrand, c'est encore lui. Et il adore venir dans cette carrière. Il organise ici des activités artistiques et des concerts.
Ce milieu me parle parce que, en fait, ici, on est au cœur d'un volcan. On est face à de la pouzzolane. Et c'est un milieu sur lequel, ben, gamin, j'y ai joué. Et c'est surtout que j'ai vu en pleine exploitation. Et aujourd'hui, c'est un endroit d'apaisement, de recueillement où j'essaye et avec un ami de le refaire revivre parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a une âme dans ce milieu.
La meilleure façon de découvrir cette carrière, c'est de regarder de plus près la roche sur laquelle vous évoluez. C'est donc de la pouzzolane, une roche très légère. Elle est faite de projections de lave. Lorsque le puits de la Nugère était en activité, il crachait la lave en fusion. Elle était expulsée en mille morceaux et retombait sous forme d'une pluie magmatique. Ce sont ces petits morceaux de lave qui craquent sous nos pas. On les appelle aussi des scories magmatiques. Aujourd'hui, on les utilise souvent pour sécuriser les routes enneigées, comme on le fait avec du sel. Mais elles servent également pour les aménagements urbains et les espaces verts, pour délimiter des massifs, par exemple, ou des allées de jardin.
Cette couleur ici est évidemment très volcanique, hein. Donc on s'attend souvent au volcanique, à la pouzzolane, quelque chose de très rougeâtre, très rouge, très incandescent. Non, ici, cette pouzzolane, elle est noire. Et en plus, aujourd'hui, on a un taux d'humidité qui fait que ça amplifie justement cette noirceur. Et ça, j'adore ça parce que évidemment, on a un contraste avec la matière végétale qui fait qu'on a des liserés de fluo, de lumière. On a l'impression presque que c'est la lumière qui sort du sol. On a l'impression que c'est incandescent, mais c'est une lumière verte.
Au fait, si comme moi vous aimez les animaux en général et les oiseaux en particulier, pensez à être discret et à tendre l'oreille sur les sentiers autour de la carrière. Au cœur de la chaîne des puits, de nombreux oiseaux et mammifères se font entendre, comme la maison jupée, le petit écureuil, et parfois on peut même percevoir le glapissement du renard ou le râle du chevreuil. Et avant que j'oublie, j'ai une autre recommandation, ou plutôt une bonne adresse. À 30 minutes en voiture d'ici, on peut louer des écolodges au volcan de l'Antégie. Ce sont des maisonnettes en bois très modernes, idéales pour les familles. J'aime beaucoup cet endroit. C'est un lieu original pour passer quelques nuits et déconnecter. Il faut compter un peu moins de 100 euros pour une nuit pour deux personnes. On quitte maintenant la carrière pour faire un tour dans le village de Volvic à 10 minutes en voiture. Au milieu du bourg, on trouve une fontaine, la fontaine Saint-Prié, ou Grande Fontaine. Si je vous en parle, c'est que cette fontaine, qui date de 1467, vaut le détour. Pendant plusieurs siècles, elle a été le seul point d'approvisionnement d'eau de la ville de Volvic. C'est là que coule la source Saint-Prié. Et cette eau, elle est intimement liée aux roches volcaniques. Parce que dans le sol, les roches volcaniques agissent comme un filtre pour l'eau. C'est grâce à elle que l'eau de source est purifiée et alimente les robinets des habitants du secteur de Volvic. Vous vous souvenez, au début de l'épisode, je vous avais dit que vous sauriez pourquoi les pierres de la chaîne des puits sont aussi précieuses. C'est parce que sans elles, nous ne pourrions pas trouver cette eau potable indispensable à la vie et à notre santé. J'ai encore un conseil à vous donner. Si vous voulez ramener un souvenir de votre week-end, passez dans un atelier de lave émaillée. On en trouve pas mal autour de Volvic. La lave émaillée, c'est une technique qui permet de recouvrir la pierre de lave par de l'émail multicolore. On peut en faire des dessous de verre et un tas d'objets de décoration originaux. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va continuer notre voyage à travers la pierre dans la commune de Châte-Beaufort, à 20 minutes de voiture de Volvic. Je vous emmène dans une sorte d'exposition à ciel ouvert. On est toujours au cœur de la chaîne des puits, mais plus précisément dans un lieu qui s'appelle le Pays des Combrailles. Je vous propose de partir en randonnée le long d'un chemin baptisé Chemin Feuzard. C'est une boucle de 3 km qu'on rejoint depuis le village de Châte-Beaufort. Ici, un autre artiste sculpteur du coin, Gilles Pérez, a installé des œuvres de plusieurs mètres de haut ou de long en pierre de basalte. La première a été installée en 1992 et la dernière en 2011. Elles sont visibles tout au long du chemin et s'intègrent parfaitement à l'environnement. Franchement, pour moi ici, c'est le pays des merveilles. Il y a une vingtaine d'œuvres. J'imagine un serpent géant, plus loin un dragon ou un animal préhistorique, ou encore la cabane d'un géant. Chacun y voit ce qu'il veut et peut se raconter son histoire.
On dirait plutôt un extraterrestre en pierre.
J'aime m'y promener, quelle que soit la saison, parce que les ambiances et les lumières changent. Les sculptures n'ont pas la même couleur, ni le même aspect. Au fait, le sculpteur Gilles Pérez est presque aussi mystérieux que ses œuvres. Il n'a laissé aucune indication sur l'interprétation de chacune d'elles. Et on ne connaît pas grand-chose non plus sur lui, son parcours, si ce n'est son amour de la pierre et de la sculpture. En revanche, pour aider les visiteurs à découvrir les lieux, la mairie de Châte-Beaufort a imaginé un livret. Dedans, on trouve un plan détaillé pour se repérer et voir l'ensemble des œuvres. Et un druide, nommé Tibor, nous propose des jeux autour de la nature et des sculptures. J'ai un dernier conseil. Même si le chemin Feuzard est accessible en toute saison, si vous le pouvez, allez-y plutôt en automne ou en hiver. Au printemps ou en été, les visiteurs sont très nombreux. C'est un peu la cohue. Le chemin est assez prisé des randonneurs et surtout des familles, parce que les enfants se dépensent sans s'en rendre compte. Si vous n'avez pas d'enfants, le chemin est beaucoup plus calme tôt le matin ou un peu plus tard le soir. C'est aussi l'occasion d'observer des chauves-souris forestières ou d'entendre le cri d'une chouette ou d'un hibou. C'est étonnant comme ces cris sont portés par le vent frais de la chaîne des puits. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Vous écoutez ici.
Waiting for you, with or without you. c'est 100%.
100% chanson française.
Salut, ici, c'est Jeanne Gabriel. Je suis heureuse de vous faire écouter mon dernier single, Bijoux.
Un coup de cœur ici.
Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Tes larmes sont passées, tes bouches se sont connues. As-tu apprivoisé, as-tu charmé des corps, il les a-tu aimés? Il les a-tu aimés, comme on s'aimait alors? La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Et je les ai goûtées, parfois même aimées. Et les avoir aimés, les avoir écorchés ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Tous ces moments qui passent, ton ombre reste là. Alors qu'on passe les oiseaux, je ne manque de rien sauf peut-être de toi. Comme éclipsé, tu vois, tu peux bien embrasser les rêves que je vois. La touche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Et je les ai goûtées, parfois même aimées. Et les avoir aimées, les avoir écorchées ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
La Rochelle, c'est le port d'attache de la côte ouest en Charente-Maritime. C'est une ville ouverte sur la mer et face à elle, on retrouve trois îles. L'île d'Oléron, l'île de Ré et l'île d'Aix. Quand on pense à La Rochelle, on imagine son port et ses trois tours. Ce sont les vestiges des fortifications de la ville au Moyen-Âge. On associe aussi La Rochelle au Festival des Francopholies. Chaque été, près de 150 000 personnes se réunissent ici pour faire la fête. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir le côté rebelle de La Rochelle. Et oui, on dit de cette ville qu'elle est belle et rebelle. Ça se remarque dans la rue, sur les murs, dans les tours. Vous allez voir que les quatre coins de La Rochelle sont marqués par l'art urbain. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi des petites couronnes jaunes se cachent dans certains graffitis. Je m'appelle Anne Delano, je suis animatrice à Ici La Rochelle. Ce que j'adore ici, c'est que c'est une ville à taille humaine. On peut tout faire à pied ou à vélo. J'ai l'impression d'être en vacances toute l'année, car il y a la mer, le bruit des mouettes, l'agitation du port. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Je venais là quand j'étais adolescente avec mes amis. Ce que j'aime ici, c'est aussi la lumière qui est très particulière toute l'année. On assiste à des levées et des couchers de soleil magnifiques. Bienvenue dans Partir, La Rochelle, belle et rebelle. Notre séjour, on se trouve sur le vieux port de La Rochelle, face à l'Atlantique. On voit des bateaux amarrés. En fait, on est juste à côté de la grosse horloge. C'est la porte d'entrée de la ville. Devant nous, on peut déjà apercevoir les trois tours. C'est une structure défensive qui permettait aux habitants de La Rochelle de se protéger dès le Moyen-Âge. La plus petite, c'est la Tour de la Chaîne, qui porte ce nom car une chaîne empêchait les bateaux ennemis de rentrer dans le port comme une barrière. Et d'ailleurs, cette chaîne est encore là. À côté d'elle, on retrouve la tour qui penche. C'est la tour Saint-Nicolas. On dit parfois que c'est la tour de Pise française. Et puis, il y a la tour de la lanterne. C'est la tour très blanche et pointue. C'est ma préférée. Elle a été à la fois une prison et un phare. Et d'ailleurs, quand on pénètre à l'intérieur, on peut observer plus de 600 graffitis laissés par les prisonniers retenus au cours des siècles. Alors, je vous le dis tout de suite, La Rochelle, c'est vraiment pas une ville à faire en voiture. Il y a très peu de parking. Mais de toute façon, ici, tout se fait à pied ou à vélo. C'est vraiment en vous baladant que vous allez profiter de la ville. D'ailleurs, ici, vous pouvez louer des vélos très facilement. Il y en a à tous les coins de rue. Ça vous coûtera entre 15 et 20 euros la journée. On avance un peu sur le port et on prend la rue Sur les Murs. C'est son nom, pour se rapprocher de la tour de la lanterne. Si vous aimez observer des détails, je vous conseille de bien lever les yeux. Vous allez voir, sur la frise du toit pointu de la tour, on peut observer des gargouilles un peu spéciales. Ce sont deux gargouilles à l'effigie de Cabu et Wolinski. Vous savez, les deux dessinateurs victimes des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Alors je vous préviens, pour bien les distinguer, il faut emmener avec soi une paire de jumelles. Et vous pourrez voir la tête chevelue de Cabu avec un crayon et le visage espiègle de Wolinski entouré de jeunes femmes. C'est un hommage discret et un poil provocateur à l'image de La Rochelle. Au fait, si vous souhaitez vous baigner et que vous n'avez pas de voiture, je vous conseille de bien regarder les marées pour les plages de La Rochelle. La plage de la Concurrence est pratique car elle est en plein centre-ville, mais attention, il faut que la marée soit haute pour en profiter, sinon vous vous baignez dans de la vase. Et si vous avez une voiture, allez jusqu'à Châtelaillon-Plage, c'est à 20 minutes, ça vaut le coup. C'est une grande plage de sable fin. On va maintenant quitter le vieux port pour aller dans le quartier du Gabu. Et pour ça, je vous propose de prendre le passeur. C'est un petit bateau, un genre de bus de mer électrique, qui vous permet de relier les deux rives en 3 minutes. Le prix, c'est 1,50€, le coût d'un ticket de bus. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon quartier préféré, le quartier le plus artistique de La Rochelle. Je vous emmène donc au Gabu. Ici, on est donc au Gabu. Le Gabu, c'est un quartier qui fait le lien entre le centre historique et le nouveau quartier des Minimes. C'est un lieu très coloré. Il y a des maisons violettes, jaunes, bleues. C'est un ancien quartier de pêcheurs et aujourd'hui, c'est un lieu de vie animé. Il y a des bars, des restaurants et surtout de l'art urbain à chaque coin de rue. Ici, tous les murs sont recouverts de fresques et de graffitis. Si vous avez une petite soif, je vous recommande d'aller boire un coup sur le France 1. C'est un bateau qui abrite un bar. Et s'il fait beau, mon conseil, c'est de monter sur le rooftop. Il y a une super vue sur le Gabu avec les graffitis. Ce que j'adore ici, c'est que c'est un quartier très vivant. Il y a toujours des activités à faire. L'été, il y a la dimancherie. Ce sont des soirées électro qui ont lieu tous les dimanches. Il y a des guinguettes et j'adore aussi les brocantes du Gabu. Chaque deuxième dimanche du mois, on peut aller chiner sur l'esplanade et promis, on y trouve des trésors. Et l'hiver, on peut toujours jouer au basket ou à la pétanque. Dominique, qu'on connaît ici sous le nom de Marguerite La Rochelaise, est médiateur culturel et il organise des balades pour découvrir l'art urbain à La Rochelle.
Dès le début, les graffeurs ont investi ces murs sauvagement, entre guillemets, au départ, et puis de plus en plus tolérés au fur et à mesure du temps par la ville de La Rochelle. On a, avec la friche du Gabu, un des plus grands espaces d'expression urbaine de France, de centre-ville. Et peut-être que les Rochelais, même la ville de La Rochelle, on n'est pas forcément très consciente, mais ça se sait bien au-delà de nos frontières et locales et départementales et régionales, voire nationales.
On avance un peu et on rentre dans cette friche du Gabu. C'est un ancien chantier naval qui fait 5000 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a des hangars, des bâtiments abandonnés. En fait, depuis la tempête Xynthia en 2010, le site est inconstructible. C'est le terrain de jeu parfait pour les graffeurs. On fait encore quelques pas pour s'approcher d'un mur.
Quand un graffiti existe, la règle du jeu, c'est tout le monde sait en posant son graffiti que c'est voué à être éphémère. La première règle, si on repasse quelqu'un, c'est-à-dire si on recouvre un graphe existant, on recouvre l'intégralité. Ce qui ne se fait pas, c'est d'en recouvrir qu'une partie. La deuxième règle, c'est qu'on n'intervient pas sur un graphe déjà existant, sauf si le graffeur nous en, ou la graffeuse d'ailleurs, parce qu'il y a les deux, nous en donne l'autorisation. Et la dernière règle, alors là, qui est plus ou moins bien respecté, c'est que plus un graffiti brille, plus il est récent. Donc en règle générale, on évite de le recouvrir trop vite. Sauf si on s'aime pas, ce qui arrive aussi. Voilà, il y a des petites guéguerres, mais qui sont... Voilà, les bombes ne sont que des bombes de peinture, donc c'est quand même cool dans, le dans la bataille, quoi.
Je vous préviens, la friche du Gabu est très prisée l'été. Pour vraiment en profiter, ce que je préfère, c'est venir ici au printemps. Il fait doux, il y a du soleil et surtout, il y a moins de monde. On peut déambuler tranquillement et se trouver une place en terrasse plus facilement. On avance encore un peu et on se dirige vers un mur recouvert d'une grande fresque. On y voit le visage d'un homme dans les tons bleus et au-dessus de sa tête, il est écrit « En hommage de notre homeboy ». Cette fresque, c'est une œuvre mémorielle pour se rappeler de Terence Robert, une figure de La Rochelle, à la fois street artiste et musicien. C'est le seul graphe que les artistes ne recouvrent pas ici pour le garder intact.
En 2014, il y avait le visage de Terence et tout autour était écrit obsèques, O-B-S-E-K. Alors rien à voir avec les obsèques et la mort, mais obsèques, on le retrouve ici. En fait, quand il mixait hip-hop, il mixait sous le nom de obsèques. Et quand ils mixaient d'autres musiques que le hip-hop, c'était sous le nom de Slim T. Donc quand ils ont refait la fresque en 2018, Péon est revenu. Et donc à partir d'une autre photo, il a reposé le visage. Et aidé de trois artistes de La Rochelle, donc Neil, Lone et Sabri, ils ont refait tout le décor. Et en y ajoutant des détails propres à Terence, le bandana bleu qu'il portait en permanence, les deux enceintes qui évoquent le métier de DJ, et puis ces fameuses chaînes brisées, qui étaient un peu un slogan qu'il avait. Dès qu'on lui interdisait de faire quelque chose, il disait toujours « mais faut briser ses chaînes ». Donc c'est un petit peu resté dans le domaine.
Je vous avais dit au début de l'épisode qu'il y avait parfois des petites couronnes jaunes qui se cachaient dans les graffitis. Eh bien, figurez-vous que dans le street art, la couronne est le symbole du statut, de l'autorité. En fait, dans l'art urbain, beaucoup d'artistes ont le même nom. Donc pour se distinguer des autres, le graffeur le plus ancien et respecté signe ses œuvres d'une petite couronne au-dessus de son blaze. Dominique a encore un conseil pour vous. Si vous deviez prendre une seule photo au Gabu pour avoir les fameuses trois tours de La Rochelle dans le cadre, c'est ici que ça se passe.
Alors on peut les voir aussi toutes les trois côte à côte. Si on passe le pont côté médiathèque, on les a côte à côte comme ça. Mais moi, j'aime bien cet alignement qui est là. Surtout, revenez au coucher du soleil. Elles prennent des tons que j'aime beaucoup.
Et avant de repartir, si vous avez un petit creux, il faut aller manger à la fabuleuse cantine. C'est un grand espace avec une déco industrielle, mais surtout, la cuisine est excellente. Ils n'utilisent que des produits locaux et de saison. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée. On va libérer les quatre sergents, des rebelles qui ont été capturés à La Rochelle.
La cavale des quatre sergents, c'est un parcours qui permet de découvrir l'histoire des quatre sergents et qui se déroule principalement, enfin au départ d'ici, le cours des Dames, qui va sur les remparts. On va direction la tour de la lanterne et on finit dans le parc animalier. Et le but, c'est de résoudre des énigmes en se promenant et en visitant la ville et en apprenant sur l'histoire de la ville, sur celui-là.
On est maintenant cours des Dames, de retour au Vieux-Port avec Martial qui organise des escape games à ciel ouvert pour découvrir l'histoire de La Rochelle. Moi, je vous conseille de choisir le parcours La Cavale des Quatre Sergents. Les Quatre Sergents font sans doute partie des personnages les plus rebelles de La Rochelle. C'est l'histoire de quatre jeunes hommes qui sont accusés d'avoir voulu renverser la monarchie au début du 19e siècle. Et pour les punir, ils sont faits prisonniers dans la Tour de la Lanterne à La Rochelle avant d'être renvoyés à Paris pour être guillotinés. Le but de cet escape game, c'est de récupérer la clé de la cellule où sont enfermés les quatre sergents pour les libérer. Pour y parvenir, on nous distribue un livre de bord avec des instructions et des énigmes. Cet escape game, je trouve que c'est une manière très ludique de découvrir la ville de La Rochelle et son histoire. On se prend au jeu et surtout, ça nous force à observer des petits détails dans l'architecture de la ville, dans certaines œuvres, qu'on n'aurait sans doute pas remarqué autrement. Et surtout, je vous conseille de faire cette activité avec des enfants. Il y a un vrai côté chasse au trésor. Par contre, il faut qu'ils soient au moins au collège pour pouvoir répondre à certaines énigmes qui font réviser les cours de maths et de français. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez. Vous venez d'écouter Partir, un podcast ici, imaginé à Ici La Rochelle.
Ici. Vous écoutez Ici. I sit away. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows,
Ici, votre radio locale, toujours avec vous.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Cannes, quand on y pense, c'est d'abord son festival du cinéma. Ses stars, le tapis rouge, la croisette bordée par ses grands hôtels. Du Palm Beach au Carlton, en passant par le Martinez, comme un Los Angeles au bout du monde. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir Cannes autrement. Un Cannes légendaire, oui, mais pas seulement pour ses légendes du cinéma. On va parler d'îles, de mythes et de mimosa. Et à la fin de cet épisode, vous saurez qui se cache derrière le célèbre homme au masque de fer. Je m'appelle Jean Rino, je suis animateur et reporter à Ici Azur, et je suis un inconditionnel de la ville de Cannes. C'est vraiment la première destination où j'emmène mes amis quand ils viennent en vacances sur la Côte d'Azur. Car Cannes, hors festival, c'est d'abord une bulle d'air. On y retrouve les couleurs de la Provence, le calme des petites plages qui longent la Croisette, les artistes dans le vieux Cannes toujours en train de créer, les bruits des pavés, car tout peut se faire à pied. Mais c'est surtout l'âme d'un décor géant, où les légendes historiques côtoient celles du 7e art. Bienvenue dans Partir, les autres légendes de Cannes. Notre point de départ, c'est la Croisette. Cette grande promenade qui longe la baie cannoise sur 3 km. Elle est très facile d'accès, à 5 minutes à pied de la gare. C'est vraiment un lieu hors du temps. On retrouve d'un côté les palmiers et les grands hôtels, et de l'autre, la Méditerranée, sa plage de sable et ses odeurs d'iode si intenses. Ce que j'adore, c'est qu'on peut croiser des vélos, des promeneurs, des skateurs. Mais il y a vraiment de la place. Et puis le paysage change au fur et à mesure qu'on s'avance. Entre la roseraie et ses pins, on voit aussi des palmiers, impressionnants. On retrouve le boulodrome, place de l'étang, et ses boulistes mauvais joueurs aux accents du sud. La vue, elle, est inégalable. Surtout quand on regarde la Méditerranée. Là, on aperçoit deux îles. L'île Sainte-Marguerite et l'île Saint-Honorat. On les appelle les îles de l'Érins. Alors c'est pas très étonnant qu'ici, les légendes du cinéma aient pris rapidement leurs habitudes. Yves Montand jouait souvent aux boules face à cette promenade du bord de mer. Brigitte Bardot, elle, venait très souvent se baigner et lézarder sur les plages de la Croisette. D'ailleurs, j'ai un premier conseil pour profiter de Cannes. Le mieux, c'est de venir plutôt l'hiver. Déjà, vous éviterez le monde et les touristes. Et en plus, c'est aussi la meilleure période en termes de paysage. Le coucher de soleil sur la mer est juste magnifique, avec des teintes orange assez uniques. Ici, on manque rarement de soleil, et les températures peuvent monter jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Franchement, c'est le temps idéal. Et puis même à cette saison, il est possible de prendre une photo sur le fameux tapis rouge. Il est installé sur les 24 marches du Palais des Festivals. Ce tapis, cette autre légende de Cannes, se trouve aussi sur la Croisette, au tout début, juste à côté du port. Le Palais des Festivals, lui, c'est un grand bloc blanc, moderne, massif, aux vitres assez impressionnantes. Il est considéré par beaucoup comme le poumon culturel et économique de la ville. Alors bien sûr, c'est là où se déroule le festival de cinéma. Mais Spalil vit aussi toute l'année. Il accueille des concerts, des spectacles, des expos. Et l'été, il y a même un carnaval géant organisé sur sa terrasse. C'est une tradition ici et ça s'appelle le Bal des Fous. Tant que j'y pense, si vous souhaitez profiter de Cannes le temps d'un week-end, je vous conseille de vous loger dans le quartier de la Californie. C'est un quartier résidentiel que l'on trouve à l'est de Cannes. Il a la particularité de surplomber la ville et on a d'ailleurs une très belle vue sur la baie. On y trouve une superbe réserve d'eucalyptus, des jardins orientaux et des villas hors normes comme la Villa Picasso. C'est là que le peintre a créé certaines de ses œuvres. Pour dormir dans le coin, il y a du choix. Vous avez de nombreuses chambres à partir de 60 euros. Par exemple, il y a l'hôtel Gallia qui lui a un bon rapport qualité-prix. Avant de quitter la Croisette, j'ai un dernier conseil. Si vous voulez boire un verre dans un endroit paradisiaque, comme un acteur de légende, je vous suggère de vous arrêter au centre d'art de la Malmaison, en plein milieu de la promenade. Ici, on trouve des boissons au prix du petit bar du coin. On peut les siroter sur un incroyable rooftop avec une super vue sur la baie de Cannes. C'est vraiment un super endroit. Et si la promenade vous a donné faim, je vous recommande aussi de prendre une table à l'Auberge Provençale. C'est le plus vieux restaurant de Cannes. Il est à 10 minutes à pied du Palais des Festivals. Et ça vaut réellement le coup. J'adore leur aioli, leur petit farci ou encore leur coquelet. Et je suis pas le seul, hein. George Clooney, Sean Connery, Phil Collins, tous sont passés par cette adresse. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir les autres légendes de Cannes. celles qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Enfin presque. Pour ça, je vous emmène à quelques pas de la Croisette, au niveau du port, Quai-l'Aubœuf. On va prendre le bateau pour se rendre sur une île. Ici, on est donc sur l'île Sainte-Marguerite, une des deux îles qui constituent l'archipel de Lérins, juste en face de Cannes. Une île paradisiaque où on retrouve de l'eau turquoise, des pins verdoyants, un écosystème protégé, des forêts ou encore un fort. Mais c'est aussi ici qu'un homme légendaire a été emprisonné, l'homme au masque de fer. En fait, c'est vraiment facile de venir sur les îles. Il y a des bateaux qui se relaient quasiment toutes les heures depuis le port de Cannes. Et il faut une quinzaine de minutes pour atteindre Sainte-Marguerite. Ce serait dommage de s'en priver. Moi, c'est vrai que j'adore venir sur cette île. Je m'y sens bien, car il y a tout pour couper avec notre rythme de vie. On se reconnecte vraiment à la nature, car c'est elle qui dicte les bruits. L'île est grande et étendue. C'est très facile de se trouver un petit endroit pour se baigner seul dans l'eau turquoise et observer aussi les fonds marins. On se croirait presque en Nouvelle-Calédonie. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est que cette île est chargée d'histoire, avec son fort royal, visible depuis la baie de Cannes. Il est imposant et mystérieux à la fois. Pour accéder au fort, le chemin n'est pas très compliqué. Il faut marcher 10 minutes depuis le débarcadère en passant par la forêt. Plusieurs sentiers sont balisés en plus de panneaux d'indication. Pas besoin de prévoir des chaussures de marche, hein, tout se fait assez simplement. Christophe Roustan de la Tour est écrivain et directeur scientifique du musée du Masque de Fer.
Le territoire est très petit. Moi, je m'y sens bien et en même temps, c'est un territoire qui m'interpelle, qui me questionne en permanence. Je sais qu'il y a des mystères et j'essaie de rentrer en résonance avec l'endroit. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'esprit du lieu. On a cette forêt ancienne, vénérable. On aperçoit des vues du littoral. On a la mer présente partout, évidemment. C'est tout ça qui contribue à faire de cette île un endroit unique.
On est maintenant au pied du Fort Royal. Je trouve que cette forteresse a de l'allure. On est face à des remparts massifs et géométriques, c'est vraiment très impressionnant. Le Fort Royal, pendant longtemps, ça a été un fort militaire. L'île, c'était un endroit stratégique pour défendre les frontières françaises. Mais sous Louis XIV, il se transforme en prison royale pour accueillir un détenu à l'extrême importance aux yeux du roi, l'homme au masque de fer. À cette époque, le 30 avril 1687 précisément, l'homme arrive caché d'un masque. Il est escorté par plusieurs mousquetaires. Il passe la grande porte en bois du fort. Et ce qui est marrant, c'est que plusieurs siècles plus tard, on passe aussi par le même chemin pour accéder à la cour. Une cour qui ressemble à un petit village provençal avec des maisons aux volets verts. À l'époque, il y avait des magasins, une boulangerie, plusieurs logements. C'était un vrai lieu de vie pour les militaires et les gardiens. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerce, mais on trouve un chantier d'insertion, un centre d'hébergement et surtout un musée consacré à la légende du masque de fer. Il est au sein de l'ancienne prison.
Manifestement, c'est quelqu'un de très important aux yeux du roi. Ça, c'est clair. On n'avait jamais traité un prisonnier comme ça. Et on peut s'interroger, quel est le secret qui mérite 34 ans d'enfermement ? C'est-à-dire, qui était aussi toxique, aussi menaçant pour le roi, en 1669, quand il est arrêté, et en 1703, quand il est mort à la Bastille. Il n'a eu aucun répit, on l'a maintenu en prison le reste de ses jours pour un secret qui devait être très, très important.
Au musée du fort, on peut visiter la cellule du masque de fer. Cette cellule, VIP et ultra sécurisée, a été construite pour lui sous l'ordre du roi Soleil. Elle est plus proche du petit appartement confortable que d'un lieu de privation. C'est simple, à l'intérieur, on trouve une cheminée et des WC personnels. L'homme au masque de fer recevait des livres. On le nourrissait copieusement et il pouvait se promener. Quand il était malade, un médecin venait aussi à son chevet. Cet homme mystérieux était à la fois une menace pour le roi, mais en même temps, on comprend, vu son traitement, qu'il était aussi quelqu'un d'un certain standing, dont on ne pouvait pas se débarrasser comme ça. Et c'est là que la légende s'affole. Certains avancent que c'est le frère jumeau du roi ou son fils.
Aujourd'hui, quand on parle de l'énigme du masque de fer, ben on peut la résoudre en partie, mais en partie seulement. On a son nom, et on sait que c'est son vrai nom, Eustache d'Auger. Et tout le mystère maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce nom.
Et oui, je vous avais dit au début de l'épisode qu'on vous donnerait la vraie identité du masque de fer. Désormais, vous savez. Avant de quitter le musée, j'ai un autre conseil. Je vous recommande un endroit qui vaut vraiment le coup. C'est à l'étage. Ici, on peut accéder à une terrasse unique en son genre, puisque c'était la terrasse privée du Masque de Fer. C'est une petite cour avec vue à 360 degrés sur mer, et d'ici, on peut voir les contours des massifs de l'Estérel, du Mercantour, tout en dominant le Fort-Royal. Mais l'île Sainte-Marguerite n'est pas que le Masque de Fer, heureusement. Plusieurs endroits insolites sont absolument à découvrir. Si vous aimez la plongée, je vous suggère d'aller visiter les Comusées sous-marins. Il est au sud de l'île, à un quart d'heure à pied du fort. Ici, pour faire référence à la légende, des statues masquées ont été installées sous l'eau. C'est totalement gratuit. Il faut juste prévoir masquer tuba. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va tenter de percer le secret d'une autre légende. On quitte l'île de Sainte-Marguerite pour nous rendre sur les collines de Cannes, à 30 minutes à pied du centre-ville. Alors mieux vaut y aller en bus ou en voiture.
Vous avez les eucalyptus qui sont juste plus loin, donc eux aussi ont été importés, comme le mimosa d'Australie.
On est maintenant à l'entrée du parc de la Croix des Gardes, le lieu de rendez-vous de tous les gens qui aiment marcher ici. Il est situé à 200 mètres d'altitude entre Cannes et le quartier de la Boca. La Croix des Gardes, c'est 80 hectares de forêt et plus de 20 km de sentiers. Et sa particularité, c'est qu'on y trouve une grande croix de 12 mètres de haut. Elle est visible de loin et porteuse d'une autre légende. En 1525, le roi François Ier aurait installé au niveau de la croix une garnison de gardes suisses pour surveiller la mer. Et ces gardes auraient été mystérieusement assassinés. Par qui, pourquoi, personne ne l'a jamais su. Mais la légende est née. Depuis, la croix a été conservée. Et elle est devenue un lieu de référence pour les Cannois. C'est vrai que moi j'aime beaucoup me balader dans ce parc, pour sentir les essences de mimosa et observer sa couleur jaune et rayonnante. Souvent sur les sentiers, on peut croiser les producteurs de cette fleur locale. On les appelle ici les mimosistes. Au sein du parc, ils récoltent le mimosa de manière traditionnelle. Et c'est d'ailleurs ici que les premiers mimosas ont poussé dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on retrouve une quarantaine de variétés, pour cette plante qui fleurit de décembre à mars. Mais toute l'année, des espèces rares et protégées sont aussi visibles dans le parc. C'est la végétation typique de la région.
Ça ressemble à du mimosa, ça, la couleur des fleurs de mimosa. Mais ce n'est pas du mimosa, puisque c'est un Acacia farnesiana, qu'on appelle aussi cassis. Et il a été planté sur le site pour l'industrie de la parfumerie. En parfumerie, on a la ville de Grasse, la capitale mondiale du parfum, qui est à quelques dizaines de kilomètres. Et donc, ces arbres ont été initialement plantés ici pour alimenter les parfumeries de Grasse.
Avant de quitter Cannes, j'ai un dernier conseil pour vous. Si vous avez envie de garder un souvenir légendaire de votre passage, allez donc faire un tour à l'office de tourisme. Pour ça, il faut retourner sur la Croisette. Là-bas, on trouve des affiches du Festival de Cannes. Moi, ma préférée, c'est celle de la 76e édition. On y voit Catherine Deneuve en noir et blanc. Elle a été immortalisée sur le tournage du film La Chamade. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez. Vous venez d'écouter Partir, un podcast ici, imaginé à Ici Azur. Mixage, Mathis Gérard. Production, Clémence Olivier, studio de création ici. Remerciements à Christophe Roustan de la Tour, Thomas de Pariente, Adrien Mangano et Pierre-André Cotran, garde forestier au parc de la Croix des Gardes. Pour écouter d'autres épisodes, il suffit de vous abonner à Partir. On est disponible notamment sur l'application ici et la plateforme Radio France. À très bientôt.
Ici. Vous écoutez ici.
c'est ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Comme d'hab, le nouveau titre de Joyce Jonathan.
Un coup de cœur ici.
Comme d'hab, je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin.